Alors Chantal Mélin et Michel Ardan, merci de nous accueillir au cœur même du Musée national Adrien du Boucher. Nous sommes entourés des plus belles pièces de porcelaine, de grès ou de verre pour évoquer ensemble durant les 4 prochaines semaines l'histoire de la porcelaine dans le monde et en Limousin en particulier évidemment. Nous évoquerons son histoire au sens très large, aussi bien du point de vue de la matière que des techniques de fabrication, encore des manufactures limousines à travers les siècles. Mais puisque nous sommes ensemble pour un mois complet, je voudrais que l'on commence tranquillement aujourd'hui par faire connaissance avec vous et découvrir comment vous êtes arrivé dans cet univers de la porcelaine. Et galanterie oblige, on va commencer avec vous, Chantal Mélin. Vous êtes la conservatrice de ce superbe musée national Adrien du Boucher.
Depuis maintenant 14 ans, j'ai le plaisir de diriger cette maison. J'y suis arrivée un petit peu par hasard pour des raisons familiales. Et comme ce musée conserve la plus belle collection au monde de porcelaine de Limoges, eh bien ma foi, je m'y suis intéressée. Monsieur Jean Dalbis avait commencé à faire connaître par un très joli ouvrage ce qu'était la porcelaine de Limoges, qui avait été un petit peu oublié des spécialistes d'historiens d'art, bien sûr pas par les professionnels qui les fabriquent. Et j'ai pensé qu'il était bon que ces collections soient remises en valeur, d'abord pour leur qualité intrinsèque, mais aussi pour mieux faire mettre en valeur la porcelaine contemporaine. Et si la porcelaine ancienne est admirée, on aura tendance aussi à encore mieux regarder et mieux admirer la porcelaine contemporaine. Donc nous avons resserré nos liens avec les porcelainiers et nous essayons d'être une vitrine digne d'eux.
Un amour de la porcelaine dont nous aurons l'occasion de nous rendre compte tout au long de ces 4 semaines, et puis un attachement particulier à votre musée qu'on présentera également dans les semaines qui viennent. Michel Ardan, vous êtes quant à vous un porcelainier à la retraite. Alors un mot sur votre arrivée dans cet univers et sur votre parcours très riche.
Bien, je suis arrivé dans cet univers il y a à peu près une cinquantaine d'années et j'y suis resté toute ma vie professionnelle. J'étais dans l'affaire Robert Avilan et ses parlons, et Monsieur Robert Avilan n'avait personne pour lui succéder et m'avait demandé d'entrer dans son entreprise, et j'y suis donc resté très longtemps.
Vous y êtes resté également, je suppose, par amour ensuite de la matière, par amour de la porcelaine?
Il est certain qu'on devient petit à petit amoureux de la porcelaine de Limoges, et c'est d'abord c'est quelquefois un coup de foudre, c'est quelquefois une lente découverte, mais je peux dire qu'elle n'est jamais décevante, elle est souvent surprenante par ses soubresauts économiques, par ses difficultés techniques, mais elle n'est absolument pas décevante par la splendeur qu'elle représente lorsqu'elle est terminée et mise sur une table.
Et c'est ce que nous aurons l'occasion de découvrir ensemble pendant 4 semaines et à partir de demain. Alors, puisque nous allons retracer durant un mois l'histoire de la porcelaine à travers le monde et à travers les siècles, je crois qu'il serait bon aujourd'hui que l'on s'arrête sur la matière qui constitue nos assiettes et nos plats en porcelaine. Je crois qu'il existe en fait plusieurs matières premières.
Alors écoutez, c'est même plus compliqué que ça, parce que si vous promenez en ville, vous verrez des affiches qui vous parlent de musée de la céramique, musée de la porcelaine, musée de la faïence. Donc en fait, le mot céramique, c'est le terme générique, et dans cette famille large de la céramique, il y a 4 grandes sous-familles qui sont la terre cuite, qui sont des simples poteries comme on les a fait dans l'Antiquité. Ensuite, des faïences, qui sont des poteries qui sont recouvertes d'un émail à base d'étain qui donne un fond blanc sur lequel on porte les décors. Puis le grès, qui est une argile à plus forte teneur de silice, qui donne une matière beaucoup plus dure et totalement imperméable, non poreuse. Et puis, enfin, la porcelaine. Alors la porcelaine, c'est aussi fait à base d'argile, mais selon la nature de l'argile qu'on emploie, on obtient une porcelaine tendre ou une porcelaine dure. Alors le but des Européens, ça a été de faire une porcelaine dure à base de kaolin, qui est une argile spécifique, qui a comme vertu de rester blanc en cuisant, et mélangé au quartz et au feldspath, de devenir translucide à la cuisson. Et surtout de cuire à une très haute température de 1400 degrés, alors que le grès ne cuit qu'à 1250 degrés et la faïence vers 900 degrés. Mais avant d'avoir trouvé le kaolin, les Européens ont voulu faire de la porcelaine sans kaolin. Et c'est cette porcelaine que l'on appelle la porcelaine tendre, qui est faite à base de marne calcaire extrêmement blanche et d'une forte proportion de silice, et qui n'est cuite qu'à 1000 degrés. De ce fait, elle est blanche, elle n'est pas tout à fait translucide et surtout elle est plus fragile, donc plus tendre, d'où le nom de porcelaine tendre qu'on lui a donné au XIXe siècle, parce qu'en particulier, disait-on, elle serait au couteau. Et donc à Limoges, on n'a fait que de la porcelaine dure, c'est-à-dire de la porcelaine à base de kaolin. Mais avant la découverte des kaolins, dont on reparlera je crois un petit peu plus tard, on a fait en France uniquement de la porcelaine tendre. Et la porcelaine française au XVIIIe siècle, personne ne spécifiait si c'était une porcelaine dure ou une porcelaine tendre, parce que tout le monde savait que c'était de la porcelaine tendre.
Il est certain qu'une des raisons de l'installation de la porcelaine à Limoges est le fait qu'il existait des kaolins et surtout des argiles qui sont en quelque sorte des kaolins de transport qui ont été transportés par les eaux et qui très souvent ont rencontré dans ce transport des petits filons de métaux qui les ont colorés, d'où ce qu'on appelle de l'argile de la terre glaise. Et cette présence de kaolin et d'argile cuisant blanc ont été essentielles pour le départ de Limoges. À l'heure actuelle, il n'y a plus de ces kaolins et de ces argiles en Limousin. Ils viennent en général, les kaolins viennent de Bretagne, et nous avons des argiles qui viennent quelquefois de Chine, d'Amérique du Sud et de pays très, très divers. Mais il n'y en a pratiquement plus d'argile cuisant blanc en France.
Alors avant d'arriver et de se développer dans notre cher Limousin en 1771, la porcelaine a trouvé ses origines en terre chinoise, c'était à l'époque Tang, mais avec quelques incertitudes, je crois, sur la date d'apparition des premiers gisements.
Alors effectivement, cette matière porcelaine est vraisemblablement due, enfin sa découverte est vraisemblablement due à la Chine, qui est la première à avoir trouvé ces fameux gisements de kaolin. D'ailleurs, le mot kaolin est un mot chinois dans la région de Qingdezhen. C'était le nom des collines dans lesquelles on trouvait ce matériau. Alors les Chinois ont fait de la porcelaine de différentes sortes. Au départ, elle n'était pas du tout translucide. D'ailleurs, elle est même assez épaisse, quelquefois relativement peu blanche en fonction des matériaux qui étaient à l'intérieur. Et ces produits ont été connus en Europe assez rapidement grâce aux échanges entre l'Orient et l'Occident qui remontent au Moyen-Âge. Vous savez que ces échanges avaient lieu par les fameuses routes de la soie, les caravanes qui revenaient d'Orient. Et on trouve dans certains trésors d'églises médiévales quelques pièces assez rares en porcelaine chinoise qui sont montées sur des orfèvreries, enfin qui étaient des pièces extrêmement rares et fragiles et précieuses. Et puis ce sont les routes maritimes qui vont permettre à la fin du XVIe siècle d'ouvrir un vrai commerce entre l'Orient et l'Occident. Donc ces pièces vont arriver en grand nombre sur le marché occidental sans qu'on sache comment elles étaient faites. Et ce sont les missionnaires qui vont, plus curieux que les autres, essayer de trouver ce secret de fabrication et qui vont expliquer que cette porcelaine est faite grâce à une argile tout à fait particulière, ce fameux kaolin. Et en fonction donc de ce que vont dire les missionnaires, on va s'efforcer en Europe de faire des matériaux identiques aux matériaux chinois. Et ce sera une espèce de course à la découverte du kaolin. Et les premiers kaolins qui vont être trouvés en Europe, ce le seront en Allemagne, près de Meissen, d'où, bien sûr, l'importance de la manufacture de Meissen, qui sera la première manufacture européenne à faire de la porcelaine dure à base de kaolin.
Et dans l'esprit populaire, je vais dire que souvent la découverte du kaolin et des gisements de kaolin en Chine, on l'attribue à Marco Polo. Je crois que c'est une idée un petit peu fausse.
Alors Marco Polo était, vous le savez, un marchand, donc il est allé effectivement plusieurs années en Chine au cours d'un long voyage, et là, à l'évidence, il a dû voir de la porcelaine, un matériau qu'il n'avait certainement pas vu en Occident, puisqu'on ne le connaissait pas au XIIIe siècle. Et donc, quand il a vu ces pièces très brillantes, et il a pris le moyen de comparaison qu'il avait, il les a comparées à certains coquillages nacrés, qui s'appellent des porcelanas, et donc d'où le nom de porcelaine, semble-t-il, le nom de porcelaine qui aurait été donné ce matériau en Europe. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la seule attribution de ce nom que l'on puisse trouver.
La fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, c'est la période d'arrivée officielle de la porcelaine en France. Alors comment tout a commencé dans notre pays, des débuts timides ou au contraire plutôt fulgurants ?
Alors, certainement, ce sont des débuts timides parce qu'on ne sait pas exactement quand la première porcelaine a été faite en France. Ce qu'on sait, c'est qu'à Rouen, dans la manufacture Potras a reçu une autorisation royale de faire de la porcelaine. Mais ce qu'on ne sait pas très bien, c'est si vraiment il a fait de la porcelaine ou en début de la faïence. Donc, on est dans les 30 dernières années du XVIIe siècle. On sait ensuite que la manufacture de Saint-Cloud, dans les mêmes époques, s'essaye aussi à faire de la porcelaine. La production après sera importante pour la manufacture Saint-Cloud qui était protégée par le duc d'Orléans, donc le propre fer du roi, mais on ne sait pas exactement, on ne peut pas décider une date tout à fait précise. Alors tout ce qu'on sait, c'est que toutes ces premières porcelaines faites donc en porcelaine tendre, sans kaolin, le sont à l'image de la Chine, et nous avons d'ailleurs dans nos collections, nous montrons de temps en temps une pièce chinoise et à côté une pièce en porcelaine tendre française, et on voit que les décors sont absolument quasiment identiques. Alors on retrouvera énormément de bleu et blanc dans ces premières porcelaines françaises, parce que les premières porcelaines qui sont arrivées en Occident, vous vous rappelez peut-être de tous ces bateaux dont on a retrouvé les cargaisons parce qu'ils ont fait naufrage à un endroit ou l'autre de la planète, et on a exposé à plusieurs reprises en France ou dans d'autres pays européens ces cargaisons qui étaient essentiellement des porcelaines blanches, les fameux blancs de Chine, et des porcelaines bleu et blanc. Et donc quand on se promène dans nos vitrines de porcelaine française du début du XVIIIe siècle, on a énormément de pièces blanches et bleu et blanc, tout simplement en rivalité, si je peux parler comme ça, ou en copie de pièces chinoises. Et ensuite, la prochaine manufacture très importante, c'est la fameuse manufacture de Vincennes, qui est ouverte dans les années 1740, qui va ensuite devenir passer sous la protection du roi lui-même, sous l'influence de la marquise de Pompadour, et donc deviendra manufacture royale et sera connue pour être la plus belle production de porcelaine française du XVIIIe siècle. Et donc, je vous le redis, c'est une porcelaine tendre, sans kaolin. Et pour avoir les premières porcelaines dures, il faut attendre la découverte des gisements de kaolin. Alors, on avait trouvé quelques kaolins en Normandie, mais tout à fait insuffisants pour être exploités. Et les essais qu'on a fait avec eux ont donné une porcelaine très grisâtre, de mauvaise qualité. Et les premiers que l'on a trouvés de qualité suffisante pour être industrialisés, c'était les fameux kaolins de Saint-Thierry.
Alors, de sa découverte en Chine jusqu'à nos jours, l'histoire de la porcelaine est émaillée, si je puis dire, de quelques grands noms qui lui ont permis d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Des grands noms, on peut le préciser, qui ont été en fait ralliés par l'extraordinaire impact économique de la porcelaine.
Alors, le premier prince qu'on connaît bien pour avoir été un absolument passionné de porcelaine et avoir obtenu les premières porcelaines dures, c'est Auguste Le Fort, qui était l'électeur de Saxe et qui donc avait retenu dans un de ses châteaux près de Meissen un alchimiste, Böttger, qui lui avait promis qu'il lui ferait de l'or. Et bien sûr, Böttger, il n'a jamais fait d'or, évidemment. Et il lui a fait, par contre, un espèce d'or blanc qui était la porcelaine. Et le lecteur de Saxe suivait ça de très très près et était absolument passionné et a financé cette manufacture, l'a soutenue de façon très poussée. Et donc, d'autres princes européens ont suivi le même chemin, dont, par exemple, le roi Louis XV, puisque la fameuse manufacture qui s'est ouverte au château de Vincennes, la marquise de Pompadour s'y est intéressée et a persuadé Louis XV que lui aussi, il fallait qu'il s'intéresse à ce matériau. Et donc, il a autorisé la manufacture à utiliser son chiffre, les deux ailes entrelacées, et il lui a demandé, enfin il l'a fait déménager plus près de lui, à Sèvres, donc devient la manufacture de Sèvres. Et cette manufacture a servi à Louis XV, puis ensuite à Louis XVI, à offrir des cadeaux prestigieux à toutes les cours d'Europe. Donc la porcelaine a vraiment été un ambassadeur politique de la cour de France, mais aussi de cours européennes. L'impact économique donc est certain à ce niveau-là, mais on s'aperçoit aussi que toutes les manufactures de porcelaine tendre qui vont se développer en France au XVIIIe siècle vont toutes être sous la protection d'un prince. Donc on vient de parler de la protection royale pour la manufacture de Sèvres, mais si on regarde la manufacture de Saint-Cloud, elle est protégée par le duc d'Orléans, qui était le propre frère du roi. La manufacture de Chantilly va être protégée par le prince de Condé, qui était le cousin du roi. La marquise de Pompadour, on vient de le dire, s'y intéressait. On dit que Marie-Antoinette a aussi reçu des services, et quand un motif comme par exemple les barbeaux lui plaisait, les motifs devenaient immédiatement à la mode. Donc c'était une matière princière, et d'ailleurs on peut dire que la porcelaine au XVIIIe siècle n'était pas à la portée de toutes les bourses. Et on peut quand même souligner un autre aspect économique, c'est que lorsque Louis XIV a appris à la fin du XVIIe siècle ces fameux édits somptuaires demandant pour les besoins de la guerre que tous les gens riches portent à la fonte les vaisselles d'or et d'argent, le duc de Saint-Simon dans ses mémoires note lui-même que tout un chacun au début du XVIIIe siècle a commencé à se mettre à la faïence. Faïence, pour lui, c'était la céramique, donc la porcelaine était sans doute englobée dans ce terme de faïence. Et donc, il y a eu des raisons économiques qui ont fait qu'on a poussé au développement de cette industrie au XVIIIe siècle en France.
Oui, le fait de pouvoir faire sa porcelaine, sa faïence et surtout sa porcelaine dure en France permettait d'économiser de précieuses devises. Les mêmes raisons ou les mêmes effets, et ça se trouve dans tous les gouvernements qui essaient d'éviter des sorties de capitaux de chez eux. Ils essaient de fabriquer eux-mêmes ce qu'ils importent.
Mais Chantal Bélin et Michel Ardan, vous ne bougez pas, on se retrouvera évidemment dès lundi pour poursuivre cette belle histoire de la porcelaine, et nous entrerons plus en détail dans l'histoire qui nous intéresse, l'histoire du Limousin. Alors Chantal Mélin et Michel Ardan, on va revenir pour débuter la semaine au XVIIIe siècle avec l'arrivée de la porcelaine en Limousin. C'est ce qui va nous intéresser tout au long de cette semaine. Et tout débute en 1768, je crois, à quelques kilomètres de Limoges. C'était dans la commune de Saint-Thierry-la-Perche.
Ce kaolin, tout le monde le cherchait, donc sa découverte n'a pas été si fortuite qu'il y paraît, puisque tous les intendants des provinces de France avaient, semble-t-il, eu des échantillons de kaolin et avaient pour mission d'en trouver, puisque la manufacture de Sèvres, dès les années 1760, avait eu des échantillons de kaolin et faisait de la porcelaine dure. Simplement, elle ne pouvait pas en faire parce qu'elle n'en avait pas assez, mais on avait fait des échantillonnages. Donc, à Limoges, c'est un petit peu un roman policier, mais j'essaie de vous le simplifier au maximum. Alors, on lit très souvent que, en fait, Madame Darnay, qui était la femme d'un médecin à la retraite à Saint-Thierry, en panne de savon, aurait lavé son linge avec une argile très blanche et qu'elle aurait eu des succès merveilleux. Elle l'aurait montré à son époux et qui se serait dit « oh là là, qu'est-ce que c'est ?» Alors je pense que ça c'est une simple légende qui s'explique par le fait qu'effectivement on a trouvé dans la région une argile blanche quelqu'un apporte auprès de l'intendant du Limousin et là quelqu'un lui dit que cette argile était tout juste bon à faire de la terre à foulon. D'où je pense que la légende est née dans les années 1830, que le foulon, c'était pour traiter les tissus, donc de là, du tissu, savon, etc. Peu importe, toujours est-il que Darnay a bien trouvé sur ses terres une argile blanche, et il y avait en parallèle, à Bordeaux, un apothicaire, qui était un personnage assez extraordinaire, qui s'appelait Villaris. Et Villaris aimait faire des découvertes, il avait découvert tout un tas de choses, notamment des procédés pour saler la viande et la conserver sur les bateaux, etc. Et il avait pour habitude, quand il se promenait en France, d'aller voir ses amis, et notamment les apothicaires ou les médecins du coin. Et il était ami avec Darnay parce qu'ils avaient fait l'armée ensemble. Et donc, il a dû un jour passer à Saint-Thierry, et il a dû voir ce que Darnay lui montrait, et aussitôt, lui, s'est dit « ça doit être du kaolin ». Mais il n'a pas voulu le dire parce que les autres découvertes qu'il avait faites, il n'avait jamais été rémunéré. Donc sur celle-ci, il s'est dit « zut, zut, celle-ci, je me la garde ». Et donc, on a su à Sèvres que Villaris avait trouvé donc, du kaolin, mais Villaris n'a pas voulu dire où était ce fameux kaolin. Donc la manufacture de Sèvres a envoyé, c'est pour ça que c'est une espèce de roman policier, la manufacture de Sèvres a envoyé deux spécialistes de la manufacture pour chercher ce kaolin. Ils sont descendus, les pauvres malheureux, jusque dans les Pyrénées. Et là, horreur, dans les Pyrénées, ils ont trouvé une espèce d'argile blanche qui était assez proche du kaolin. Donc là, Villaris s'est dit, non d'un chien, il y en a d'autres que moi qui vont trouver la même chose. Donc il a fini par dire où il avait trouvé le kaolin. Et je crois bien que le pauvre, il n'a pas été tellement plus rémunéré là-dessus que sur le reste. Mais ça a permis donc à Macaire, qui était le chimiste de la manufacture de Sèvres, d'aller avec Villaris lui-même à Saint-Thierry et de trouver une matière pour laquelle, sur laquelle il a dit lui-même, on l'a retrouvé dans une de ses lettres, j'ai trouvé une argile blanche à se mettre à genoux devant.
Et hier, nous évoquions l'arrivée de la porcelaine en Limousin avec la découverte des premiers gisements exploitables en 1768 du côté de Saint-Thierry-la-Perche. Et c'est à cette époque également qu'apparaît l'un des personnages clés de l'histoire de la porcelaine en Limousin.
Oui, vous voulez parler de l'intendant de l'époque qui était le fameux Turgot. Turgot qui est bien connu pour avoir été ensuite ministre de Louis XVI pendant quelques années et qui avait donc commencé sa carrière comme intendant du Limousin où il est resté de longues années. Et Turgot avait, vous le savez, comme particularité d'être un émule des physiocrates, donc un économiste averti pour son époque. Il avait notamment en Limousin remis en état nombreuses routes parce qu'il avait bien compris que les moyens de transport et les voies de communication étaient essentiels pour remettre une région qui était devenue très pauvre. Autant le Limousin avait connu une période faste au Moyen-Âge, à la Renaissance grâce notamment à César du Feu et à ses émaux, mais au XVIIIe siècle c'était devenu une région relativement pauvre. Et donc Turgot, apprenant la découverte du kaolin, en physiocrate averti, s'est dit mais là il y a une ressource économique extraordinaire, il faut absolument que ce kaolin soit exploité et utilisé sur place. Donc il va faire en sorte que la manufacture de faïence qui existait à Limoges, comme il en existait dans toutes les grandes villes de France, puisse être transformée en porcelainerie. Et il l'a fait avec d'autant moins de scrupules que la manufacture de faïence était manifestement sur son déclin. Donc il a fallu trouver les capitaux nécessaires pour reprendre cette manufacture et surtout réaliser l'opération technique la plus compliquée qui était de trouver les bons moyens de cuisson puisqu'une faïence cuit à 900 degrés, une porcelaine cuit vers 1350-1400 degrés, donc il fallait avoir les fours nécessaires. Et c'est là que Turgot a eu un rôle important. Il va se mettre en lien avec deux industriels avertis de la région qui étaient les frères Grelais qui avaient tout un tas d'entreprises, notamment des entreprises de tréfiles filerie. Ils avaient touché à beaucoup de choses. Et ensuite, quand il a fallu construire les fours, il est intervenu personnellement auprès du ministre d'État Bertin à Paris pour lui demander des plans des fours. Et nous avons retrouvé la lettre dans laquelle le ministre Bertin lui répond « Mais écoutez, je suis désolé, mais les fours, bien sûr, ils sont à Sèvres, mais les ouvriers de Sèvres verraient d'un très très mauvais œil qu'on vous donne les plans des fours. » Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il ne faut pas faire des fours à la façon allemande, qui étaient des fours allongés, mais il faut faire des fours ronds. Et pour le reste, plongez-vous dans la bonne littérature. L'ouvrage auquel il était fait référence, c'était le fameux ouvrage du comte de Milly, qui effectivement, sur lequel on trouve aujourd'hui encore le plan d'un four rond. Et il a fallu bien sûr construire ces fours, et dans la correspondance que l'on conservait aux archives départementales de la Haute-Vienne, on trouve de nombreuses lettres tout au long de la vie de la manufacture sur les soucis de cuisson, les problèmes pour faire marcher ces fours. Mais c'est vrai que sans l'intervention de Turgot, vraisemblablement personne n'aurait pris les risques d'ouvrir une porcelainerie à Limoges. Alors en 1771, cette manufacture est fondée sous le nom de trois personnages, Grelet, donc qui était ceux qui apportaient les capitaux, Massier, qui était donc l'ancien propriétaire de la manufacture de faïence, qui reste dans la manufacture, et puis un dénommé Fournera, qui était un arcaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui avait appris à faire la porcelaine dure. Alors lui, c'était un personnage haut en couleur, qui est resté quelques années dans la manufacture, mais qui a quand même permis qu'en 1771, on sorte la première porcelaine dure faite à Limoges, et le musée a la chance d'avoir la pièce témoin de cette fabrication, qui est un très joli médaillon sur laquelle une inscription est portée « Première porcelaine en terre du Limousin », la date 1771, et à l'avers du médaillon, il y a les armes de Turgot, ce qui est une espèce d'hommage rendu à toute l'action que Turgot a faite pour l'installation de cette première manufacture.
Nous évoquons ensemble ces jours-ci l'arrivée et les débuts de la porcelaine à Limoges avec les actions de l'intendant Turgot, ce dont nous avons parlé hier. Et d'autres personnages vont également faire leur apparition à cette même époque, et notamment le comte d'Artois, qui va accepter de protéger la première manufacture de Limoges dès 1774.
Oui, vous savez que la manufacture de Sèvres, en tant que manufacture royale, avait des privilèges importants. En particulier, théoriquement, n'aurait dû être fait dans les manufactures françaises aucune porcelaine dorée et aucune sculpture en porcelaine. Seule Sèvres avait le droit de la faire. Donc pour aller au-delà de ces privilèges et pour contrevenir à ces privilèges, il était de coutume de placer sa manufacture sous la protection d'un prince. Ce qui permettait aussi souvent d'obtenir des possibilités d'être défalqué d'un certain nombre de droits de transport, de droits de douane, de droits d'octroi. Donc la manufacture de Limoges va suivre le même chemin et va demander au comte d'Artois, donc le second frère de Louis XVI, le futur Charles X, qui venait de recevoir le Limousin dans son apanage, s'il voulait bien accepter de protéger cette manufacture. Et c'est ce qu'il va accepter en 1774. Alors on a retrouvé, juste que le comte d'Artois protège cette manufacture, que la manufacture avait obtenu déjà quelques avantages, notamment sur les droits d'octroi, et donc en échange de ces avantages, elle avait obtenu en fin 1793 l'obligation de marquer ses porcelaines. Donc au départ, elle aurait dû marquer GMF pour Grelet, Massier et Fournera. Et puis juste à ce moment-là, le comte d'Artois a accepté de protéger la manufacture. Donc les GMF n'a jamais été utilisé. Et par contre, lorsqu'on était protégé par un prince, la coutume voulait que l'on marque la production de la manufacture des initiales du prince. Alors ici à Limoges, toutes nos pièces sont marquées CD. Une fois en creux, c'est-à-dire incisée dans la pâte lorsque le blanc était fabriqué. Et ensuite, une fois qu'elle était décorée, on portait CD en couleur, généralement rouge, quelquefois bleu. Et on s'est longtemps demandé pourquoi ce CD, parce que généralement on utilisait plutôt les initiales du prince. Là ça aurait été CP, puisque le prince s'appelait Charles-Philippe. Or ici c'est CD. Et on a acquis au musée il n'y a pas très longtemps une superbe aiguière, une des plus belles pièces qu'on connaisse aujourd'hui en porcelaine de Limoges du XVIIIe siècle, qui marque C avec un petit TE. D'. Donc ça prouve bien que c'était pour le titre comte et puis d'Artois, puisqu'il est souvent de coutume d'accoler la particule au nom. On trouve souvent d'ailleurs les écritures d'Artois en un seul mot ou d'Artois avec D'. Donc on est bien sûr que c'est bien pour comte d'Artois. Et quand le comte d'Artois acceptera en 1776 de protéger une manufacture à Paris, aux grandes dames d'ailleurs du porcelainier Limousin, la manufacture prendra ses initiales CP pour son prénom. Alors cette manufacture, vous le savez, sera revendue à la manufacture de Sèvres une dizaine d'années plus tard. Or, la marque continuera. Et on a trouvé des lettres du directeur de l'époque disant « Nous continuons à utiliser la marque CD, bien que nous soyons filiale de la manufacture royale de Sèvres. » Donc, c'est une marque qui a été utilisée jusqu'à la Révolution française et qui est donc un critère d'authenticité pour la production de cette porcelaine du XVIIIe siècle à Limoges.
C'est donc en 1771 que la première manufacture de porcelaine a vu le jour à Limoges. C'était sous l'impulsion, on en a parlé, de l'intendant Turgot. Un mot, Chantal Mélin, sur les premières pièces qui sont sorties de la manufacture.
Alors les toutes premières, on les connaît assez mal. On en identifie une petite dizaine, qui étaient des pièces extrêmement simples, avec très peu de coloris, juste couleur orangée, vert, brune. Mais à partir de 1774, quand les pièces sont marquées CD, alors là, on identifie bien la production. Et on a, ma foi, un nombre d'exemples assez important. Le musée de Rennes-Boucher a la chance d'avoir la plus belle collection de porcelaine de la manufacture du comte d'Artois aujourd'hui. Et on voit une évolution dans ces décors. Alors au départ, ce sont des décors très simples, avec même des filets qui semblent être des filets polychromes, puisqu'on n'osait pas encore trop utiliser de l'or. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle aujourd'hui, à tort finalement, les filets en dents de loup, qui en fait, on a retrouvé dans les textes de l'époque, étaient dits des filets en dentelle d'or, ce qui est beaucoup plus élégant, et qui étaient souvent doublés d'un filet bleu. Alors on a souvent dit, c'est la particularité de Limoges. En fait, ce n'est pas la particularité de Limoges, mais c'est très fréquent à Limoges, plus que dans d'autres manufactures, et surtout beaucoup de jetées de fleurs. Alors on a des fleurs qui sont soit par petits groupes, soit par bouquets, disposées en triskèles ou avec une répartition plus ou moins aléatoire, qui d'ailleurs souvent servent à cacher les défauts de la porcelaine. Et puis en 1784, la manufacture est rachetée par la manufacture de Sèvres. Et à ce moment-là, l'évolution est très nette. Sèvres envoie quelques décorateurs, envoie des colorants, et donc on a une palette bien plus étoffée et des décors beaucoup plus sophistiqués. Et on a la chance d'avoir un certain nombre de décors comme ça, comme par exemple le fameux bouillon de l'abbé des Marais du Chambon, qui était un des abbés de l'abbaye Saint-Martial ici à Limoges, qui avait commandé donc un petit peu de porcelaine, et son bouillon a un décor extrêmement sophistiqué, tout à fait dans le goût Louis XVI qui pouvait avoir lieu à Paris, donc directement importé donc par les ouvriers de la manufacture de Sèvres. Donc ça c'est très important parce que les ouvriers de Limoges vont ainsi apprendre leur métier et une dextérité qui ensuite leur servira pour la suite.
On va se tourner vers vous, Michel Ardan. On rappelle que vous êtes ancien porcelainier. Un mot sur les conditions de travail, sur les méthodes de travail au tout début de la fabrication de la porcelaine à Limoges.
Il semble que les méthodes n'aient pas tellement changé entre la fin du 18e et le début du 20e, ou la fin du 19e en tous les cas. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans les premiers temps de la porcelaine, les méthodes utilisées, en particulier la mauvaise connaissance des fours, donnaient des porcelaines très souvent avec des défauts. Mais à l'époque, à ce moment-là, je pense que les gens n'avaient pas comme critère de qualité l'absence de défauts. À l'heure actuelle, pour juger de la qualité d'un truc, on dit il n'y a pas de défauts, des petits défauts qui, à mon sens, n'ont aucune importance pour la beauté même des pièces.
Et sur les conditions de travail, de grandes différences, là encore, je crois qu'il y avait dès le départ un côté très familial qu'on a peut-être perdu maintenant.
Oui, il y avait un côté totalement familial, et ça s'est fait plus tard, par exemple. Les fileurs, qui étaient les gens spécialisés dans les filets sur porcelaine, s'offraient un lecteur. Ils étaient 4 ou 5, qui se payaient un petit apprenti, qui leur lisait des livres pendant qu'ils travaillaient. C'était l'équivalent de la radio actuelle. Mais c'était tout à fait étonnant de voir ça dans des ateliers.
Alors à peine 20 ans après son arrivée en Limousin, l'industrie de la porcelaine va être confrontée, évidemment, on l'aura compris, à un événement d'envergure. C'est bien sûr la grande révolution française de 1789.
Ça a été un événement important dans l'histoire de France et donc toute la France va s'en ressentir et le Limousin ne va pas faire exception. Alors la principale caractéristique, hélas, c'est que la révolution française va avoir raison de la manufacture royale de Limoges, puisque depuis 1784, elle porte le titre de manufacture royale à titre de filiale de Sèvres. Alors, une ou deux choses intéressantes, ce sont quelques décors qu'on connaît, qui sont des décors révolutionnaires, notamment une très jolie tasse que nous avons dans nos collections qui représente les trois ordres de la société. C'est le moment aussi de rappeler que la manufacture va mettre un certain temps à mourir, entre guillemets, parce que au fond, d'après les textes anciens, on s'aperçoit qu'elle a mal vécu de sa porcelaine. La production de la porcelaine n'a pas été très importante. C'est toujours resté une petite manufacture avec de grosses difficultés. Par contre, ce qui lui a permis de survivre quand même aussi longtemps, jusqu'en 1797, c'est la vente des kaolins. Puisqu'on a retrouvé les factures de vente de kaolins aux manufactures françaises et étrangères. L'Europe entière va se fournir en kaolin à Limoges. Et je pense que la première renommée de Limoges, c'est pas tant la porcelaine, puisque on a aussi retrouvé les contrats de vente de la porcelaine, et on s'aperçoit qu'elle est vendue essentiellement dans le sud-ouest de la France. Les points de vente, c'est Montauban, Brive, Toulouse, mais pas au-delà, très très peu à Paris. Par contre, on exporte du kaolin, même en Allemagne, jusqu'en Hollande, Pays-Bas, Italie, Suisse, Angleterre. Donc, vous voyez, alors, il faut s'imaginer que ces kaolins, ils partaient pas en camion, ils partaient en char à bœufs. À Paris, on montait jusqu'à Paris en char à bœufs sur des terrains pas goudronnés. Et tout ce qui partait, pouvait partir par mer, partait en char à bœufs jusqu'à Bordeaux, et puis là prenait la voie maritime. Et donc malheureusement, à partir de 1792, on s'aperçoit dans les archives que pratiquement il ne se produit plus rien dans la manufacture, et qu'à partir de 1792, le directeur François Luot, qui avait été nommé en 1788, malgré tous ses efforts, malgré tout l'argent qu'il met dedans, puisqu'il va contribuer de sa propre bourse, et il va avancer beaucoup de sommes pour essayer de faire marcher la manufacture, il écrit à partir de 1790... Ici, plus rien ne se fait. On avait commencé à relancer des décors, relancer des fabrications, lancer des nouvelles formes, mais plus personne ne nous achète. Le luxe n'existe plus. On n'a plus de clients. Et donc, à partir de 92, il va accepter de diriger la monnaie de Limoges. Donc, pratiquement, il ne s'occupe plus de la manufacture, qui va tomber complètement en léthargie. Et en 1797, elle est vendue pour un franc symbolique à 3 ouvriers. Mais elle est pas totalement morte, puisque vendue à 3 ouvriers, qui étaient Cacatte, Joly et Joubert, elle va passer de main en main jusqu'à aujourd'hui, sous le nom de l'ancienne manufacture royale. C'est la même qui a perduré.
On va donc refermer cette semaine sur cette période un petit peu noire pour la porcelaine à Limoges. Et on se retrouvera évidemment lundi pour attaquer une nouvelle semaine à la découverte de cette histoire. Et on repartira au 19e siècle avec là le renouveau pour la porcelaine en Limousin. Et nous évoquions ensemble la semaine dernière l'industrie de la porcelaine à Limoges lors de la révolution de 1789. Révolution, on l'a dit, bien qu'il y ait eu raison de cette industrie. Alors nous allons démarrer cette nouvelle semaine avec l'après-révolution, en allant même directement dans la première moitié du 19e siècle, qui est considérée, je crois, comme celle des fondateurs avec la mise en place de l'industrie porcelainière telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Il y a 3 grandes manufactures de porcelaine au 19e siècle qui s'installent tout de suite, celle de Baignolles, celle d'Alluot et celle de Tarot. Alors on les appelle les fondateurs de l'entreprise porcelainière de Limoges, mais il y a une vraie raison à cela. C'est que le premier, Baignolles, était l'un des meilleurs ouvriers de la manufacture royale dont nous avons parlé la semaine dernière. Et en 1789, il quitte la manufacture. Il devait déjà se rendre compte des difficultés qu'elle rencontrait et des prémices de la Révolution française pour créer sa propre manufacture. Et comme c'était un excellent ouvrier du XVIIIe siècle, il a transféré en fait du XVIIIe au XIXe tout ce savoir-faire acquis grâce, entre autres, à l'intervention de la manufacture de Sèvres. Et donc, il a été un vecteur de transmission de ce savoir-faire, ce qui a permis à Limoges, dès le début du XIXe siècle, d'avoir une entreprise de porcelainière digne de ce nom et de ne pas avoir les balbutiements qui, au fond, eux, dataient du XVIIIe siècle. La deuxième entreprise très importante, c'est Alluot. Et Alluot, François Alluot, a été le second directeur de la manufacture royale. Donc, lui aussi, il a bénéficié de tout le savoir qu'il avait donc acquis lors de sa direction de la manufacture en 1788. Il l'acquitte, on l'a dit l'autre jour, en 1792. Et puis, en 1797, il décide de recréer sa propre manufacture. Sur ses entrefaits, il est mort, malheureusement, mais son fils, François II Alluot, va reprendre la manufacture et il va être une des grandes figures de la porcelaine de Limoges dans la première moitié du XIXe siècle. Et puis, Tarot, sa mère avait tenu un des magasins de la manufacture royale. Donc il était baigné déjà dans cette matière et il était parti dès son jeune âge à Paris pour se former dans certaines manufactures parisiennes. Et puis il a passé quelques mois à la manufacture de Sèvres pour apprendre son métier. Et tous les trois ont développé 3 grandes entreprises qui vont marquer la porcelaine. Mais il faut bien noter qu'à cette époque-là, dès 1830, il y a 30 manufactures à Limoges. Donc vous voyez, une explosion de manufactures. De 1 au 18e siècle, on passe à 30 ans plus tard. Donc c'est une entreprise qui va très très bien marcher jusqu'à la première crise qui arrivera en 1830.
La première moitié du 19e siècle, nous le disions hier, marquait l'expansion très nette de l'industrie porcelainière en Limousin, avec de très grands noms sur cette période. Mais l'évolution s'est également faite, je crois, sur les méthodes de travail et sur les produits qui sont sortis à cette époque-là des usines.
Il est intéressant de noter, on en est à peu près assuré maintenant par les textes, que 50% à peu près de la production qui était faite à Limoges était restée blanche et était exportée directement, non marquée, chez d'autres porcelainiers, en fait, des décorateurs. Donc, ils ne souhaitaient pas que la porcelaine soit marquée, parce que les décorateurs souhaitaient mettre, eux, leur propre nom. Et donc, il y avait des décorateurs à Limoges, mais une bonne partie des pièces partaient à l'extérieur sans être décorées à Limoges. Limoges ne faisait que du blanc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous passez chez un antiquaire qui vous dit c'est du vieux Paris, la première moitié du 19e siècle, eh bien, vous avez 80 chances sur 100 que c'est une pièce faite, en tous les cas le blanc fait à Limoges, mais malheureusement, comme ils ne sont pas marqués, on n'en a pas plus de preuves que ça. Alors ce qu'on peut dire à ce moment-là, c'est qu'en 1832, arrivent à Limoges deux sculpteurs parisiens qui s'appelaient Aaron et Valin, qui vont introduire un changement important. Jusque-là, on fait surtout de la vaisselle de table et des vases décoratifs. Aaron et Valin, eux, produisaient à Paris des bronzes, donc des sculpteurs sur bronze. Vous savez, dans l'esprit de Barry ou des gens comme ça, avec beaucoup d'animaux, des animaux chassants, des animaux passants. Et il semble que ces deux artistes se soient aperçus qu'il était moins cher de tirer leurs sculptures en porcelaine que de les tirer en bronze à la cire perdue. Et donc, ils ont ouvert à Limoges rapidement une entreprise extrêmement florissante où ils vont faire pratiquement que des objets décoratifs. Alors, ça passe par les luminaires, les plaques de luminaires, on en a un très bel exemple au musée, des toutes sortes de statuettes, des pendules, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer comme objet purement décoratif. Et donc, Limoges va ouvrir, en fait, élargir sa production, non seulement au service de table, mais aussi à l'objet d'étagère, à l'objet décoratif. Et donc, ça, c'est important parce que ça va être aussi un des facteurs de développement des manufactures limousines. À la fin de cette époque, dans les années 1845-1850, une évolution technique va être très importante, c'est que l'on va passer des fours à bois aux fours à charbon. Ce sont des changements techniques importants qui vont permettre une meilleure rentabilité, puisqu'une fournée faite au charbon était beaucoup moins chère qu'une fournée faite au bois.
Et c'est ce qui va d'ailleurs changer complètement la physionomie de Limoges, étant donné que le bois faisait des fumées très légères, alors que le charbon a donné des quantités de petites poussières, et que Limoges a pris cet aspect que nous avons connu au milieu des années 50 quand je suis revenu, c'est-à-dire d'une ville noire, très sombre et avec des précipitations très nombreuses parce que les particules de poussière envoyées par ces fours à charbon changeaient le climat de Limoges et changeaient l'aspect de la ville. Lorsque l'on est revenu au gaz de lac quelques années plus tard, alors tout a changé. Nous avons le Limoges actuel beaucoup plus gai, beaucoup plus propre qu'il ne l'était avant.
Il y a deux jours, nous évoquions l'une des crises à laquelle a été confrontée l'industrie porcelainière à Limoges. C'est évidemment la Révolution française de 1789. Mais l'industrie porcelainière, c'est une industrie, quoi qu'il arrive, au parcours en dents de scie. Une industrie très liée, en effet, au contexte international et qui s'est retrouvée notamment confrontée à la fameuse crise de 1830.
Oui, effectivement, la porcelaine, c'est un produit de luxe. On en a parlé au XVIIIe siècle. Alors, au XIXe siècle, elle devient un petit peu plus... Elle élargit son public, puisque comme les coûts de production vont aller en diminuant avec l'industrialisation, certains ont écrit que la porcelaine passait de la table princière à la table bourgeoise, et puis même certaines fois à des tables beaucoup plus modestes. Mais ça reste quand même une entreprise de luxe, et en particulier une entreprise de main-d'œuvre. Et de ce fait-là, dès qu'il y a une crise économique, ce sont ces industries qui sont les premières à en pâtir. Et donc la première crise importante que les manufactures de Limoges vont avoir à subir, c'est la crise de 1830. Alors on la connaît assez bien parce qu'un érudit du 19e siècle avait relevé et publié les demandes de subsides des entreprises à cette époque-là. Alors c'est très important parce qu'on retrouve comme ça le nom des entreprises et on voit que la plupart d'entre elles demandent simplement des subsides pour ne pas fermer. Donc ils sont vraiment au bord de la faillite. Mais ce qu'il y a de sympathique, c'est qu'à chaque crise politique, 1830, 1848, 1870, crise internationale comme par exemple la guerre de sécession, à un moment où Limoges commençait à beaucoup exporter en Amérique, donc le marché américain devient plus difficile, les guerres, guerre de 1814, 1840, à chaque fois l'entreprise souffre, mais à chaque fois elle repart, et à chaque fois elle retrouve une heure de prospérité. Donc vous parlez à juste titre de Dancy, parce que finalement elle se remet à chaque fois, parce que Dieu merci, de chaque crise on se remet, et donc il y a à nouveau une clientèle qui s'intéresse à cette production. Mais cette sensibilité à l'environnement politique est quelque chose de tout à fait remarquable quand on retrace l'histoire de Limoges sur 250 ans.
Nous terminerons cette chronique la semaine prochaine avec la deuxième moitié du 19e siècle ainsi que le 20e siècle évidemment. Mais je voudrais pour terminer la semaine, aujourd'hui et demain, que nous évoquions le lieu dans lequel vous avez la gentillesse de nous accueillir, véritable mémoire historique je dirais de notre patrimoine. Il s'agit du Musée National Adrien du Boucher. Si on gratte un petit peu les origines, on va remonter aux alentours de 1845.
On remonte même à 1845 précisément, c'est-à-dire une époque où la France crée ses musées. C'est l'époque où on s'aperçoit qu'il faut préserver le patrimoine. Des gens comme Mallarmé s'y sont beaucoup attachés, des gens comme Viollet-le-Duc, etc. Et arrive à Limoges le préfet Morisot, qui était le père de Berthe Morisot, qui veut inscrire Limoges dans cette action et qui crée donc une société savante, comme on en a eu beaucoup au XIXe siècle, la Société d'Histoire et d'Archéologie du Limousin, avec comme principale mission de créer un musée. Et donc la société s'exécute, crée un musée, et ça répondait donc à cette ambiance nationale, mais aussi à un souhait qui avait été formulé par les porcelainiers eux-mêmes. Et on a retrouvé dans les années 1830 des écrits de François Alluot, dont nous avons parlé l'autre jour, qui, grand porcelainier, homme cultivé, plaidait pour un musée, parce qu'il pensait que tous ces ouvriers, tous ces artisans qui travaillaient pour la porcelaine, qui était donc l'industrie principale de la ville à l'époque, devait être alimenté par des œuvres d'art. Or, à l'époque, les transports étaient beaucoup plus compliqués qu'aujourd'hui. On montait même à Paris, pas aussi simplement qu'aujourd'hui. Les transports étaient longs et compliqués. Et donc, il aurait été souhaitable d'avoir comme à Sèvres un musée où les gens de Limoges puissent se ressourcer, en quelque sorte, et avoir des exemples sous la main desquels s'inspirer. Et donc, cette idée est reprise par le préfet Morisot. C'est un musée qui marche plus ou moins bien jusqu'en 1865, époque à laquelle sa direction est confiée au fameux Adrien du Boucher dont il porte le nom. Alors Adrien du Boucher, quelqu'un qui n'est pas très bien connu, il est né à Limoges dans une famille de marchands drapiers et il s'est passionné pour sa ville. Il a eu la chance d'épouser Mademoiselle Biscuite, dont le père avait une entreprise de cognac à Jarnac, et là il y a fait fortune. Et après avoir aidé son beau-père à faire de cette entreprise une entreprise florissante, il revient pour ses temps libres dans la région à partir de 1865 et il accepte de consacrer ses temps libres à sa chère ville de Limoges et à tous ses amis les porcelainiers. Comme il avait été élevé à Limoges, il connaissait tous ses chefs d'entreprise. Il était ami avec Henri Ardan, avec Alluot, avec tous ces gens qui étaient les grands chefs d'entreprise de l'époque et donc il a voulu que ce musée les aide. Et donc il a consacré une grosse part de sa fortune pour faire ce que je ne connais pas d'autres exemples de ce type, acheter des pièces, non pas pour lui, pour faire une collection qu'après il aurait donnée, mais pour les mettre directement dans les vitrines du musée, et pour faire ce musée pour sa ville et pour l'industrie porcelainière.
Chantal Mélin, je rappelle que vous êtes conservatrice du Musée national Adrien du Boucher à Limoges, musée dont nous parlons depuis hier effectivement. Avec sa création, on s'était arrêté avec bien tout ce qu'avait fait pour lui Adrien du Boucher lui-même. Je voudrais que maintenant on évoque ce musée, qu'est-ce qu'il est devenu et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui pour nos amis qui nous écoutent en Creuse, qui ne connaissent pas forcément ce musée national.
Alors le musée est devenu national en 1881 à la demande de la ville de Limoges qui le gérait jusque-là depuis 1867 et l'État a accepté de le prendre en charge parce que il y avait aussi une école qu'Adrien du Boucher avait créée en même temps et que l'État s'intéressait énormément à l'enseignement artistique à cette époque-là. Et donc l'État a pris en charge l'école et le musée pour en faire une institution commune et aider à ce développement des arts appliqués qui étaient à la mode dans toute l'Europe à la fin du XIXe siècle. Alors l'État, depuis quelques années, s'y intéresse vivement, reprenant un petit peu l'idée d'Adrien du Boucher d'en faire une vitrine pour les porcelaines et de mettre en valeur cette collection tout à fait unique de porcelaine de Limoges. Limoges n'a pas tellement gardé ses émaux parce que les émaux sont très anciens et on trouve de très belles collections malheureusement ailleurs qu'à Limoges, que ce soit à New York, à Moscou ou à Paris. Mais la porcelaine finalement elle est plus jeune et elle n'est pas tellement partie à l'étranger. On trouve très très peu de porcelaine de Limoges dans les musées étrangers. Et si on veut comprendre la fabrication de la porcelaine de Limoges depuis le début de sa fabrication jusqu'à aujourd'hui, la collection du musée, d'environ 2500 pièces, retrace totalement, avec des chefs-d'œuvre qu'on ne voit nulle part ailleurs, tout le savoir-faire des porcelainiers pendant 250 ans. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr. Ces 2500 pièces ne sont à peu près que 20% des collections. Le reste des collections permet de retracer toute l'histoire de la céramique mondiale et donc de resituer cette porcelaine de Limoges dans la production mondiale et donc de voir que finalement, c'est une place qui se tient très bien, qui est extrêmement honorable et de faire des comparaisons avec les influences, qu'elles soient européennes, chinoises, Moyen-Orient, etc. Tous ces grands pays qui ont fait aussi, tous les pays du monde qui ont fait aussi de la céramique, et donc resituer dans un contexte qui permet aux gens de relativiser un petit peu la production de Limoges. Puis nous avons également le cycle de conférences de l'École du Louvre qui nous permet d'élargir aux autres arts décoratifs la connaissance de notre public et là aussi de permettre des comparaisons extrêmement fructueuses.
Le temps passe extrêmement vite, c'est déjà la fin de la troisième semaine que nous passons ensemble. Nous avons une dernière semaine de rendez-vous pour terminer de remonter ensemble le fil de l'histoire de la porcelaine en Limousin et à Limoges précisément. Et nous évoquerons à partir de lundi pour cette dernière semaine la deuxième moitié du 19e siècle et évidemment le 20e et tout début du 21e siècle. Ce sera donc à partir de lundi. Et nous entamons donc notre dernière semaine à la découverte de l'histoire de notre porcelaine. Alors pour ces 5 derniers rendez-vous, nous allons retracer les 150 dernières années de l'histoire de cette porcelaine en remontant tout d'abord aujourd'hui à la seconde moitié du 19e siècle, que l'on considère, je crois, comme celle de l'âge d'or.
Oui, effectivement, c'est l'époque, mais il y a une personne qui domine cette période, c'est la fameuse manufacture Pouillat, dont on peut admirer les productions des fameux blancs, puisque Limoges, à cette époque-là, va se particulariser par les blancs. C'est-à-dire quoi, ils vont oser, à une époque où on aime les choses très chargé sous le Second Empire, présenter des pièces sans décor pour montrer que les kaolins sont les meilleurs, ce qui est vrai, et que la main-d'œuvre est capable de faire des pièces sans défaut. Il n'y a pas besoin de décor pour cacher les défauts. En parallèle, on va utiliser une seconde technique, qui est la technique du décor sous émail ou décor de grand feu, qui vont donner des coloris extrêmement chauds, extrêmement subtils à la porcelaine. Et puis c'est l'époque où un grand nombre de techniques vont faire des progrès. Mais là, je vais céder la parole aux porcelainiers.
Oui, à la fin du 19e siècle, il y a eu différentes révolutions dans les techniques porcelainières. La première a été les fours Minton, qui étaient à renversement de flamme, c'est-à-dire des fours qui donnaient assez rapidement une atmosphère uniforme dans des fours qui pouvaient avoir entre 100 et 120 mètres cubes, ce qui était donc pas très facile. Ceci venait des méthodes importées d'Angleterre par la maison Minton, que nous avons représenté il y a quelques années, et j'avais invité le président de Minton à célébrer le bicentenaire de Limoges. Il m'a dit « Quelle coïncidence, nous célébrons nous le tricentenaire de notre affaire ». Il faut vous montrer que les porcelaines dans le monde étaient également des concurrents redoutables. Et il y avait également des machines de façonnage qui sont arrivées à la fin du 19e siècle, faites par les maisons Limousine, qui étaient Rouchot et Fort, qui se faisaient de la concurrence et qui mettaient sur le marché des machines tout à fait performantes qui ont continué à être utilisées jusqu'à la fin du 20e siècle. Et c'est peut-être dommage même qu'elles aient été mises au remblai parce qu'elles permettaient de faire des pièces que nous ne pourrons plus faire désormais en porcelaine avec les méthodes nouvellement employées. Voilà, je pense, qui a été essentiel. Essentiel également le changement du décor uniquement à la main avec des décors d'abord par décalcomanie où on décalquait uniquement les pourtours des pièces où on faisait du remplissage de couleurs à la main et par la suite la décalcomanie complète où on pouvait décalquer un ensemble de décors sur les pièces de porcelaine. L'ambiance des usines était une ambiance très familiale, d'abord par le recrutement, où on avait souvent des familles entières qui travaillaient dans l'entreprise, ou des maris, femmes, enfants, quelquefois, puisqu'on prenait des ouvriers à partir de l'âge de 14 ans, jusqu'en 1960. Hein. Et d'autre part, par l'ambiance même, qui était extrêmement proche lorsque l'on ouvrait les fours. Le four était le centre de l'entreprise, c'est là où tout se passait, où tout le risque de fabrication de la porcelaine se passait, et tout le monde, du petit ouvrier de dernière zone jusqu'au contremaître et au patron, était aussi passionné pour savoir si le four avait réussi ou non. On attendait l'ouverture du four, la cuisson avait duré 3 nuits et 2 jours, on l'ouvrait devant le patron, et tout le monde se précipitait pour voir les premières pièces sorties, voir si la qualité était bonne, si on avait atteint le bon degré de cuisson, car les manières de surveiller la cuisson étaient extrêmement rudimentaires, et on avait plus confiance dans l'œil du contremaître chargé de la cuisson des fours que dans des méthodes beaucoup plus techniques et beaucoup plus pointues.
Nous l'évoquions hier, la seconde moitié du 19e siècle et celle de l'âge d'or pour la porcelaine de Limoges avec des tremplins formidables dont on va parler aujourd'hui, ce sont les expositions universelles.
Oui, l'exposition universelle, il faut réaliser l'importance que ça a eu pour Limoges. En tous les cas, Limoges a su extrêmement bien utiliser ce tremplin. En effet, à partir de 1851, l'Angleterre, dans le fameux Crystal Palace, ouvre la première exposition universelle et quelques porcelainiers de Limoges vont envoyer des pièces à Londres. Et caractéristique tout à fait remarquable, ce sont les premières pièces marquées. Si on voulait être reconnu dans ces expositions qui attiraient plusieurs millions de visiteurs au XIXe siècle, qui permettaient donc d'être vus et admirés par autant de monde et par pratiquement tous les pays du monde occidental, y compris outre-Atlantique, puisque les Américains participaient aux expositions universelles, il fallait bien sûr être reconnu, donc marquer ses pièces. Et donc c'est un tournant dans l'histoire de la porcelaine de Limoges. Avant 1851, pratiquement aucune pièce n'est marquée. À partir de 1851, pratiquement toutes les pièces sont marquées. Donc c'est extrêmement important, à la fois pour la connaissance de la production, parce que tant que c'est pas marqué, on a quelquefois un peu des difficultés à attribuer les pièces, et puis pour le phénomène social et industriel que représentent ces marques. Alors, la seconde se tient en France, à Paris en 1855, et là, la manufacture Pouillat va présenter ce fameux magnifique service Cérès dont on dit qu'il aurait été acheté par le tsar de Russie. Et ensuite, la troisième qui se tiendra à Paris, c'est 1878, où la manufacture Pouillat se fera à nouveau brillamment remarquer par le fameux service Grainerie. Donc vous pouvez admirer au musée, ces deux services Cérès et Grainerie ne sont visibles qu'au musée Adrien Dubouchet. L'autre jour, je parlais de pièces uniques, c'est le cas. Et une autre exposition importante, ça a été celle de 1862, la seconde qui se tient à Londres, parce que c'est là que Pouillat va se faire remarquer pour ses fameux blancs. La critique va dire, le porcelainier Limoges, Pouillat, ose faire du blanc, il se singularise et finalement il a bien réussi et donc il est tout à fait remarqué. Et les expositions universelles donc vont être importantes pour les porcelainiers de Limoges dans toute la seconde moitié de ce 19e siècle jusque pratiquement l'exposition de 1900, celle qui se tient à Paris, et après ce seront plutôt des expositions internationales qui prendront le relais, mais ça a été des vecteurs tout à fait considérables pour permettre à Limoges d'acquérir cette renommée internationale qui est encore aujourd'hui son apanage.
Et nous nous rapprochons tranquillement de notre époque puisque nous abordons ensemble le siècle qui s'est achevé en 2001, le 20e siècle, avec dans les premières années l'émergence, on peut dire, de deux styles assez nouveaux.
Oui, c'est le fameux Art Nouveau qui ouvre le 20e siècle et Limoges, là, a joué une part extrêmement importante et relativement peu connue. Vous savez que ce courant Art Nouveau a été lancé par Siegfried Bing, qui était porcelainier à Paris et qui avait ouvert un magasin dans les dernières années du 19e siècle qui s'appelait l'Art Nouveau. Et à l'exposition universelle de 1900, il a eu un stand qui s'appelait l'Art Nouveau. Alors dans ce magasin et sur ce stand, il avait fait venir un certain nombre d'artistes pour leur demander de créer des choses nouvelles et notamment des œuvres d'art qui soient proches du quotidien des acheteurs. Et donc il a commandé des tissus, des meubles, tout un tas de choses décoratives et puis des porcelaines. Alors pour les meubles, pour les tissus, il avait ses propres ateliers, mais pour la porcelaine, il ne pouvait pas la faire lui-même, c'était beaucoup trop compliqué. Donc il s'est tourné vers Limoges et c'est la manufacture GDA qui a fourni toute la porcelaine de l'Art Nouveau Bing. Et nous avons la chance d'avoir au musée une collection quasi complète de la production de GDA pour l'Art Nouveau Bing. Et ce qui avait séduit Siegfried Bing, et qui a été la raison pour laquelle il s'est adressé à Limoges, c'était la qualité de la porcelaine et notamment des décors, de ces fameux décors de grand feu, qui consistent à faire cuire la porcelaine avec son décor. Alors selon deux procédés dont M. Ardan vous parlera tout à l'heure, selon qu'on pose la couleur avant la cuisson ou qu'on recuit avec la couleur, mais le résultat reste le même. À 1400 degrés, la couleur pénètre dans la porcelaine, passe sous l'émail, et à ce moment-là, vous avez non seulement une vision d'un émail brillant sur la couleur de façon uniforme, mais une couleur très chaude et souvent très subtile, avec des gris extrêmement doux, des roses très subtiles qu'on ne peut pas obtenir au petit feu. Et ça, ça avait séduit Siegfried Bing, et c'est la caractéristique de toute cette fabrication, qui est une fabrication de grand prix, parce que les décors au grand feu, bien sûr, nécessitaient une dextérité pour poser les décors et des cuissons à haute température, donc qui étaient onéreuses.
Michel Ardan, sur cette technique du grand feu, un mot ?
Oui, c'est un procédé relativement simple dans ses principes, mais difficile dans son application. C'est de recuire une pièce qui a déjà été cuite à 1400 degrés pour faire de la porcelaine blanche, d'y mettre une couche de coulée et de recuire de nouveau à 1400 degrés avec tous les aléas d'une cuisson à 1400 degrés et les risques de casse ou de défaut. Et GDA a osé faire cela et ça a donné des résultats absolument époustouflants, comme vous disiez, dans la finesse, dans les dégradés de décors qui sont absolument superbes et très typiques de l'époque.
La porcelaine avec le XXe siècle qui s'annonçait comme très prometteur et plutôt faste pour cette industrie porcelainière du Limousin après le formidable essor de la fin du XIXe. Mais c'était évidemment sans compter sur les deux guerres mondiales qui vont finalement remettre en cause pas mal de choses dans son développement florissant.
Oui, vous parlez effectivement de développement florissant. 1925 avait été un haut de vague, puisqu'on a parlé de Dancy, c'était le haut d'une Dancy, puisque à l'exposition des arts décoratifs 1925, d'où est partie cette notion de art déco, Limoges avait fièrement inscrit sur le pavillon du Limousin Limoges, capitale internationale de la porcelaine, et avait fait appel à de grands créateurs pour renouveler l'art décoratif et l'art de la porcelaine, et ont créé des pièces extrêmement intéressantes. Et puis malheureusement, effectivement, la Seconde Guerre mondiale est arrivée. Elle a été certainement pour les porcelainiers plus cruelle que la première. Finalement, la Première Guerre mondiale, ils sont arrivés à s'en sortir sans trop de peine. Chacun a cherché un créneau qu'il puisse développer pour rester à l'abri de la fermeture. Par exemple, plusieurs ont développé les têtes de poupées qui se sont très bien vendues, puisque à partir du moment où on est entré en guerre avec l'Allemagne qui était le seul fabricant de têtes de poupées, la France, bien sûr, n'a pas voulu acheter une seule tête de poupée à l'Allemagne, et donc on les a toutes faites en France et en particulier à Limoges. Donc là, il y a eu un nouveau marché. Et puis on a aussi eu le marché des arts décoratifs, avec notamment les pièces faites dans l'esprit ou par le fameux Édouard Marcel Sandoz pour Théodore Avilan, qui permettait de faire cuire des petits objets dans des petits fours qu'on pouvait faire remarcher à nouveau au bois. Donc au fond, Première Guerre mondiale, les porcelainiers s'en sont à peu près bien tirés. En tous les cas, ont pu surmonter la crise. Par contre, la Seconde Guerre mondiale a été beaucoup plus difficile pour eux. Et d'ailleurs, après les premières années d'après-guerre, il a fallu remonter une pente très difficile, et notamment retrouver l'outil industriel nécessaire, puisque l'Allemagne, elle, avait bénéficié du plan Marshall, et pour remonter son industrie, l'Allemagne a été depuis le milieu du 19e siècle un concurrent redoutable pour la porcelaine de Limoges, et donc il a fallu répondre à cette concurrence, et il a fallu investir énormément pour moderniser l'outil de production, ce qui explique que le renouveau artistique sera un petit peu plus tardif, parce qu'il fallait d'abord songer à remettre les entreprises à un niveau de production concurrentiel.
Et justement, Michel Ardan, un mot sur les moyens qu'a utilisé l'industrie porcelainière pour se remettre un petit peu à flot à l'issue de cette Seconde Guerre mondiale ?
Je pense que nous étions arrivés en 1950, 1951, et peut-être même 52 au moment de la baisse Pinet, au moment le plus grave, la plus grave crise qui ait jamais connu la porcelaine, et où elle a failli disparaître. Il y a eu à ce moment-là quelques faits nouveaux et marquants qui ont complètement inversé la courbe. Le premier a été probablement, sous l'égide du Commissariat général à la productivité, l'intervention d'un cabinet d'organisation qui s'appelait Planus, qui a réorganisé dans ses principes toutes les usines de porcelaine avec une part importante prise en charge par l'État. Deuxième chose, l'arrivée du gaz de lac à Limoges, qui a permis d'avoir un combustible bon marché, d'avoir des fours qui avaient 7 à 8 mètres cubes, donc beaucoup moins chers au départ que ces grands fours de 100-120 mètres cubes que nous avions, et ayant un ensemble de chaleurs homogènes, atteignant cela beaucoup plus facilement. En troisième lieu, nous avons commencé à avoir des recherches sur les formes et sur les décors réservés. Tout cela a fait qu'à partir de 60-65, avec l'arrivée dans les années 65 de nouvelles machines à calibrer automatiques, nous a permis d'être à la hauteur de nos concurrents allemands qui, eux, avaient eu la chance, si j'ose dire, entre guillemets, la chance d'être détruits et d'être reconstruits, alors que nous avons dû faire cette révolution dans de vieilles usines, dans des vieux immeubles, et c'était beaucoup plus difficile.
Alors nous avons vu hier Chantal Mélin et Michel Ardan que les deux guerres mondiales et notamment la seconde avaient porté un coup rude à l'industrie porcelainière du Limousin avec du même coup une remise en question indispensable et d'ailleurs plutôt salvatrice de notre production. Alors nous allons clore ces 4 semaines de rendez-vous avec un bilan des années d'après-guerre de 1950 à nos jours et puis en jetant également par la même occasion un petit coup d'œil sur l'avenir, on l'espère, radieux de notre porcelaine.
Les porcelainiers de Limoges, une fois qu'ils ont eu remis à flot leur outil de production, ont pu s'intéresser à la créativité. Et d'ailleurs, l'été dernier, on a fait une exposition au musée pour essayer d'aller à l'encontre de certains esprits chagrins qui disent « oui, à Limoges, on fait que des petites fleurs, il n'y a pas de créativité », pour montrer que justement, à partir des années 1970, la créativité a vraiment existé à Limoges. Et que Limoges a su, à partir de ces années-là, faire appel à de grands créateurs. On peut citer parmi eux Raymond Levy, qui avait, vous savez, un atelier de création à Paris, bien sûr originaire d'Amérique, Roger Talon, Robert de Blander. On a aussi travaillé beaucoup avec des grands couturiers qui eux-mêmes sont des créatifs, que ce soit Pierre Cardin, que ce soit Hermès, qui ont tous apporté des idées et les porcelainiers de Limoges ont su les traduire parfaitement, tout à fait dans la lignée de la façon dont ils avaient travaillé avec les grands artistes du 19e siècle. Mais là, je crois que Michel Ardan, qui a vécu toute cette période, qui a su inciter les porcelainiers à suivre cette voie, vous en parlera beaucoup mieux.
Oui, je crois que vous parlez de designers. Je pense qu'il faut éviter de tomber dans un piège et d'être l'exécutant d'un designer. Steiner, parce que c'est lui qui finalement prend la tête et l'importance dans la création, et ce n'est plus la maison. On n'a pas parlé de Comolera, on parle de Pouya, et je pense qu'il est, nécessaire de continuer à laisser filtrer l'esprit de l'entreprise au-dessus et imprégner la création de D-Designer. Mais je pense que Limoges a un avenir difficile, mais certainement prometteur, si Limoges fait des choses qui ne se font pas ailleurs, fait des choses de très grande qualité, fait des choses très recherchées, et également change un tout petit peu sa manière d'étudier ses coûts de production, en diminuant son coût de production direct, le transférer sur la communication, qui est absolument nécessaire, de même que les parfums ne représentent, peut-être le jus représente 10% du coût même du parfum, et que le reste, c'est de la publicité, c'est de l'emballage, c'est de la présentation. Il faut que Limoges fasse cela, et Limoges est en train de faire cette révolution dans la distribution, ce que je crois très important, et c'est un gage de réussite pour l'avenir brillant que je souhaite à la porcelaine de Limoges. Je crois aussi que, je le dis souvent, l'avenir de porcelaine de Limoges, c'est de justifier son passé.